Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 1er décembre 2025. On se retrouve malheureusement avec un Bitcoin en recul de 5%. Pareil du côté de Ethereum qui recule quasi de moins 6 à 2800 et des brouettes. On a un XRP logé autour de 2$ à moins 7. Également, c'est le cas de Solana à 127-128$. On recule de 9% pour ADA Cardano, moins 18 pour Zcash. Vraiment, la bulle Zcash est en train d'éclater, si on peut la qualifier ainsi. Moins 8, moins 7 pour LTC et Avalanche, moins 10 poursuit, moins 10 pour Uniswap, Polkadot, pareil pour Mantle. Donc voilà, grossièrement, ce top 30, voire jusqu'au top 50-60, on a des moins 5 à moins 10% ce matin qui malheureusement annonce un début de mois de décembre un peu chahuté. On a moins 12 également pour KuCoin, donc qui vient d'être agréé MiCA en Autriche apparemment et qui, après s'être fait banni en France, va pouvoir revenir au travers de cette licence. C'est complètement fou une fois de plus. Moins 10% pour Quant, également pour Arbitrum, et on clôture le top 50 à 1,15 milliard de capitalisation avec Sky, Atom Cosmos et Filecoin. Du côté du 4 heures, double hésitation qui a été malheureusement punie immédiatement à la réouverture des futurs entre 92 et 93. On est venu mécher à 85,5. Donc on espère défendre le point bas des 80 000, grand maximum 75-76. C'est peut-être là que le marché trouvera réellement de la réaction. En tout cas, pour l'instant, on a de nouveau énormément de flux qui se sont fait liquider et le Crypto Fear and Greed qui est à 24, mais ce début de semaine pourrait à nouveau le propulser très rapidement dans l'extrême peur. L'émission du jour est sponsorisée par Aster. Pour ceux qui n'en ont toujours pas entendu parler, il s'agit donc d'un DEX, c'est-à-dire vous allez pouvoir trader de façon décentralisée et il est soutenu derrière par Binance. Vous en avez très certainement pas mal entendu parler du côté des réseaux sociaux. Ils entrent dans leur Harvest Stage 4 qui va vous permettre d'obtenir jusqu'au 21 décembre 2025 à minuit, des récompenses en fonction de l'activité que vous faites sur la plateforme. Le farming permet l'obtention de points et se calcule sur la manière suivante. Trade points plus position points plus Aster assets points plus profit points, loss points multiplié par le team boost plus referral points. Ça fait beaucoup de points, je vous le concède. Donc un farming qui fonctionne et en perp et en spot, donc vous pouvez faire absolument ce que vous voulez et trader sans levier bien entendu. La plupart du temps, c'est le plus safe. Vous avez la possibilité d'avoir un total d'allocation de 1,5%. Et la particularité de cette nouvelle étape, donc, c'est que vous allez pouvoir générer des points bonus en utilisant des tokens Aster comme collatéral. Également, une seconde compétition de trading est ouverte à tout le monde sur la partie perpétuelle d'Aster avec un prize pool de 5 à 10 millions de dollars. La compétition se déroule du 17 novembre au 21 décembre et est séparée en 5 phases, une par semaine. Chaque semaine, par phase, les 1000 meilleurs traders par trading de volume se partageront jusqu'à 2 millions de dollars et la compétition est ouverte à tout le monde. Il suffit juste de faire des échanges finalement sur la plateforme pour bénéficier de tout ça. Vous avez plus d'informations bien entendu sur le Twitter de AsterDex ou directement sur leur site en suivant les informations. Donc en espérant que ce genre de produit puisse aussi satisfaire à une partie de la communauté, une partie de la population crypto. Et on passe donc aux deux informations qui vont avoir leur petite importance sur ce début de semaine et qui, je pense, ce week-end sont les deux choses essentielles finalement à retenir de ce qui est en train de se passer. Premièrement, c'est le Japon et le taux de 2 ans qui est à 1% et c'est le plus haut depuis 2008. Alors ça peut paraître anecdotique, mais s'il n'y avait que le 2 ans, le court terme, à la rigueur, on se dirait oui, c'est peut-être quelque chose, voilà, justement un petit peu court-termiste qui est en train de se passer. Malheureusement, côté asiatique au sens large du terme, j'ai l'impression qu'à un souci, en fait, il y a quelque chose qui s'est grippé dans les rouages de l'économie côté chinois notamment, on va y venir dans un instant. Et là, pour le Japon, que ce soit les taux courts ou les taux longs, ils sont en train de bondir frénétiquement. On n'a pas vu ça depuis 2008. Et la problématique, comme vous le savez, pour ceux qui étaient là le fameux 5 août 2024, lorsqu'il y a eu la débâcle du Yen Carry Trade, c'est que pendant très longtemps, pendant des années, on pouvait emprunter à taux zéro du côté du Japon, de la Banque du Japon qui émettait comme ça beaucoup d'argent gratuitement. Ça a créé d'ailleurs toute une génération, je crois que comme d'habitude, j'aime pas écorner les termes, mais c'était les Madame Watanabe qui était un peu la ménagère japonaise qui spéculait sur le Forex en échangeant des devises comme ça, grâce notamment à ses prêts à taux zéro. Et donc par rapport au marché en tant que tel, ça a permis du côté des États-Unis et un peu plus de se diffuser à travers du monde tout entier financier, d'avoir ce fameux Yen Carry Trade qui était la possibilité d'emprunter d'un côté au Japon à 0%, 100% et d'aller le faire fructifier sur l'ensemble des autres marchés. Inutile de vous dire que ça a alimenté bon nombre de bulles et probablement jusqu'à celle de l'IA. Problème aujourd'hui, quand les taux remontent très fortement, on n'est plus du tout sur du 0%. Là, 1% pour le 2 ans, ça peut paraître anecdotique. Nous, quand on nous annonce 1% en Europe, on est tout à fait content. Mais quand on voit les taux longs qui font 2, 3, 4%, là, inutile de vous dire que pour les créanciers, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus compliqué. Également à noter, du côté chinois, on a un ralentissement malgré le fait qu'ils sont en plein QE. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de relancer leur propre économie, d'être super pro-business, d'essayer d'être ouvert, etc., comparativement en tout cas aux années précédentes. Ils arrivent peut-être un peu après la guerre, mais le fait est que pour l'instant, eh bien, on a en effet une injection monétaire du côté de la Chine qui malheureusement ne ruisselle pas de par le consommateur qui lui ne consomme pas. Donc est-ce qu'on a, mis à part les États-Unis aujourd'hui et ce phénomène un peu localisé de l'IA qui n'est pas représentatif aussi de l'économie réelle, quelque chose qui est en train de se gripper d'un point de vue mondial et qui finalement va nous faire payer un peu les 5 années complètement folles qu'on a connues sur les marchés avec des indices qui nous faisaient des 10, 20, 30, 40% par an. C'était complètement fou pour le coup. Modulo 2022 où on a eu un semblant de bear market en 2022, même sur le marché US. Mais si on prend les 5 années dans leur entièreté, c'était complètement fou 2022-2025. Donc aujourd'hui, on a une Chine qui finalement ne consomme pas malgré un stimulus gigantesque. On a le Japon avec des taux qui sont en train de bondir qu'on n'a pas vu depuis 2008. Ça commence petit à petit, je pense, à tendre un tout petit peu les marchés. Et en premier lieu, ben, le marché crypto qui 2 semaines d'affilée hésite aux 3000 et ne passe pas en clôture hebdomadaire. Et on est de retour donc autour de 2900 ce matin. Moyenne mobile 100 à 2883. Et si tout ça est perdu en hebdo, bien entendu, lors du franchissement du dernier point bas à 2750, la prochaine zone d'aplat serait autour de 2500. Donc, pour moi, on est toujours bel et bien dans un début de structure de bear market, malheureusement. Je croise les doigts, comme vous tous, pour qu'on arrive à se raccrocher aux branches et faire un semblant de double point bas entre 2750 et 3000 milliards. Mais pour l'instant, au niveau des oscillateurs, en tout cas, ça semble assez mal engagé. J'en profite pour dire un petit mot du côté des altcoins, pas juste pour passer le Crypto Total 2, mais pour la psychologie de l'investisseur. À court terme, ce matin, ça discutait déjà sur le Discord et sur le chat des alts pour dire « Oh, hier, j'ai rechargé, par exemple, tel altcoin et aujourd'hui, de nouveau, je suis à moins 8, moins 10. » C'est beaucoup trop tôt pour recharger les alts. Si on prend en considération qu'en effet, on a des chances d'être en bear market et que Bitcoin risque de perdre encore, je sais pas, moins 30, moins 40, moins 50% si vraiment ça se gâtait, imaginez un peu la tranche des alts. Donc aujourd'hui, bien entendu, on peut jouer le court terme en se disant ben, je suis un peu contrariant, je pense que le cycle de 4 ans est fini et je pense que les alts sont déjà attractifs sur les niveaux sur lesquels ils se trouvent, mais ayez bien en tête en termes de gestion du risque dans un coin de votre tête justement de si le Bitcoin vient à nous faire plusieurs dizaines de pourcents supplémentaires à la baisse. La dominance stablecoin malheureusement qui continue de résoudre à la hausse, on est en train de franchir les 0.09, donc si ça accélère, ça voudra dire une fois de plus hein, que le marché crypto est en train de se carapater. La Bitcoin dominance 59.3, toujours au contact de la moyenne mobile 20, il ne se passe plus rien. On est en train de contracter dans un mouchoir de poche, tandis que Bitcoin lui-même, 86 500 ce matin, on était encore hier soir proche des 93 000 ou selon les échangeurs autour des 93 000. Donc là, le mieux qui puisse nous arriver, bien entendu, c'est que premièrement, on revienne tester cette zone des 84, grand maximum 80, avec le dernier des derniers recours, comme vous le savez, les 75-76, d'avoir le RSI qui fasse un point bas équivalent au précédent, ce qui nous donnerait une divergence autour de 35-36 en hebdo, et derrière de repartir à partir de là en décembre en direction des fameux 100 000. D'ailleurs, pour l'instant, vous noterez qu'on est venu tout juste d'un point de vue du rebond technique chercher 92-93 et immédiatement, les vendeurs sont en contrôle et on ne nous laisse même pas l'air sur ce début décembre. Bon, c'est encore un peu trop tôt pour en parler, bien entendu, mais on aurait pu espérer avoir un rebond technique un petit peu plus furieux, comme diraient certaines personnes. Et de notre côté, bah, pour l'instant, on sent que véritablement, ça a envie d'essayer d'aller pousser un petit peu plus bas. Donc, comme d'habitude, les marchés ne sont pas unidirectionnels. Au plus, ça va shorter. Au plus, ça donnera du fuel plus tard pour avoir un rebond qui sera majestueux, bien entendu. Mais pour l'instant, on sent que voilà, c'est un peu la peine qui prédomine. Et donc, il faut jouer super safe. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas le moment d'aller s'engluer immédiatement du côté des alts. En attendant, pour Ether, on travaille les 2000 3800. C'est une zone de polarité. On a la moyenne mobile 200 en dessous à 2444. La zone de pivot long terme autour de 2100-2150. Le point bas qu'on avait revisité en avril 2025 autour de 2004 qui correspond au record d'il y a deux cycles, janvier 2018. Donc c'est assez fou de se dire que même la seconde crypto-monnaie du marché hein, sur ce cycle, ça aurait été très très compliqué. Du côté des indices, on a le VIX bien entendu ce matin sur fond comme ça, peut-être de tension côté Japon et Asie qui récupère 10%. On a les métaux précieux qui en profitent. Le gold qui s'échappe de ce petit triangle de compression à la hausse, 4 250 $ l'once. Le silver, 57 $. Pareil, on est haut désormais et on est en découverte de prix. C'est pareil du côté du platine qui vient chercher 1 700 $ l'once et le palladium qui est à 1 490. Donc ça aussi, vous en faites ce que vous voulez comme d'habitude. La liquidité américaine qui vient de faire un nouveau point haut, mais finalement, ben, si toutes ces liquidités ne se déversent pas dans l'économie réelle, qu'on n'a pas d'investissement, qu'on n'a pas de consommation, eh bien la problématique reste la même finalement. On a le 30 ans, le 20 ans aux États-Unis qui récupère quasiment 1%. Pareil, ces trucs. Est-ce que la Fed est toujours en retard par rapport à ce que escompte le marché ? Est-ce qu'on va avoir une baisse de taux en décembre de 0,25 points ? Dans tous les cas, le marché n'en a que faire pour l'instant. Sinon, il anticiperait déjà et ça baisserait au niveau des taux longs, voire même des taux courts. Donc, il y a une contradiction en fait à court terme avec ce qu'aurait envie de voir et de faire le marché et ce qui est en train de se réaliser tout simplement. Le S&P 500 et le Nasdaq devraient réouvrir légèrement dans le rouge au niveau des futurs. Moins 0,50 et moins 0,60. Rien d'alarmant, mais comme vous le savez, hein, quand la panique s'empare des marchés, ça peut aller assez vite. Le dollar qui, pour l'instant, recule depuis les 100 en direction des 99,32 pour le DXY. Et on clôturera donc avec la liquidité globale mondiale qui, elle, pareil, a bel et bien rebondi sur son support long terme qu'on avait travaillé dès 2021 ici. Pour autant, est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de faire un top ici de liquidité mondiale ? Voilà, je me pose pas mal de questions. Pareil, ceux qui jouent leur va-tout sur le fait que c'est que les cycles de liquidité qui abondent et qui abreuvent les bullruns du Bitcoin et crypto. Voilà, je serais quand même assez précautionneux là-dessus. Très certainement que ça joue et que ça joue beaucoup. Mais jouer contre la fameuse statistique du cycle de 4 ans du halving, aujourd'hui, pour moi, ça semble être un risque immensément plus important que de juste essayer psychologiquement de se rassurer en se disant t'inquiète, la liquidité va revenir ou machin ou bidule. On l'a vu la dernière fois, je crois que c'est Fineco qui l'avait partagé, qu'on n'a jamais eu une telle décorrélation entre la liquidité disponible et le Bitcoin ou le marché crypto ou les marchés en général. Et tout ça s'explique très bien par ce qui est en train de se dérouler et au Japon et en Chine. Vous avez beau inonder un marché de liquidité, si les participants n'en ont que faire et ils ont peur et ils sont crispés et finalement ils font des économies au lieu de déployer le capital, eh bien vous avez un rouage qui est grippé, qui tourne au ralenti, et c'est peut-être très largement ce qu'anticipaient les super banques, les JP Morgan, les Goldman Sachs et compagnie, qui alertaient environ 6-12 mois en arrière sur le fait que les 5 prochaines années pourraient être placées sous ce signe de la stagflation, avec une croissance faible et des marchés qui n'offriraient plus que des 2, 3, 5% à l'année. Du côté des États-Unis, peut-être il y aura une belle rotation aussi à effectuer du côté des marchés émergents qui pourront se glisser dans cette petite brèche si les superpuissances ralentissent un petit peu. Voilà, comme d'habitude, le but est d'être diversifié géographiquement et sectoriellement et d'en bénéficier derrière quand il y a des grands décalages positifs pour petit à petit faire croître son patrimoine. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que cette émission vous ait plu. Le petit pouce, le petit commentaire et continuez d'être prudent. Ciao, ciao.